Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux relations des parents avec leurs ados. Parfois difficile, voire même conflictuel. Comment gérer le quotidien avec ces adultes en devenir qui se posent parfois plein de questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses? Et bien avec nos deux invités, elles sont d'ailleurs mère et fille, Isabelle Filioza, psychothérapeute, et Margot Fried Filioza, sexothérapeute, nous vous donnerons les clés de la parentalité positive pour en finir un peu au moins avec les portes qui claquent à la maison. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une maladie de saison, la bronchite, et de son traitement. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, on va parler d'un moyen de contraception pas toujours bien connu, les spermicides. Comment ça fonctionne et est-ce vraiment efficace? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question d'échangisme. Comment réagir quand on ne partage pas vraiment l'envie de tenter l'expérience de son conjoint?
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Séverine, 35 ans.
Oui, bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je me permets de vous appeler pour poser une petite question. J'aurais aimé faire une réduction de ma poitrine que je juge de beaucoup trop forte. Je voulais juste savoir si c'était une opération importante ou trop lourde et combien ça coûtait aussi également. Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, est-ce qu'une réduction mammaire, d'abord, c'est une très grosse intervention?
Alors c'est une intervention qu'il faut prendre au sérieux, ça se fait pas à la légère, et on la pratique lorsqu'on souffre d'hypertrophie mammaire, et on peut le faire pour deux raisons. La première, c'est lorsqu'il y a un préjudice fonctionnel, c'est-à-dire que la poitrine est tellement volumineuse que ça entraîne des douleurs au niveau du dos et au niveau du cou, mais ça peut être aussi lorsqu'on a un préjudice esthétique et psychologique, puisque finalement des femmes vont souffrir de ça et avoir un vrai retentissement psychologique, soit parce que le regard des hommes ou des femmes est dur à porter, ou parce que les seins tombent et elles considèrent que c'est gênant, et donc à ce moment-là, elles peuvent décider de se faire opérer.
C'est vrai que ça peut être parfois pourvoyeur de complexe. Alors, on peut envisager cette intervention à n'importe quel âge? Si à 16 ans, j'ai une poitrine trop volumineuse, on peut m'opérer éventuellement?
Alors, il est possible d'opérer à la fin de l'adolescence, mais si on attend, en règle générale, la fin du développement mammaire. Et à ce moment-là, on peut aller voir le chirurgien si on a besoin.
Alors, comment se déroule l'intervention? On va pas tout à fait rentrer dans le détail, mais on fait quoi, grosso modo?
Alors, évidemment que la technique dépend du chirurgien et dépend aussi de ce qu'on souhaite faire, mais ça se fait sous anesthésie générale. Ça dure 2 à 4 heures en position assise, puisque ça permettra de mouler au mieux la future forme des seins. Il faut dire aux femmes qu'ils souhaitent avoir cette intervention que ça laisse des cicatrices, puisqu'on va ouvrir en 3 points au niveau de l'aréole, une incise verticale et une horizontale. Donc, ça laisse
comme
des cicatrices exactement
peu.
En forme de T. Et donc, avec les années, cette cicatrice s'estompe mais restera persistante.
D'accord. Et ça peut être remboursé, je crois, par la Sécurité sociale dans certaines conditions, en tout cas.
Oui, l'assurance maladie accepte de prendre en charge cette intervention, en tout cas en partie, lorsque le volume des seins est vraiment important à enlever, lorsqu'on doit retirer à partir de 300 grammes par sein, la Sécurité sociale peut donner une prise en charge. En règle générale, un sein pèse 400 grammes lorsqu'on fait un bonnet B ou un bonnet C. Donc s'il y a 300 grammes,
c'est que vraiment,
la poitrine est vraiment volumineuse. Et à ce moment-là, il peut avoir une petite partie prise en charge.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Julie, une future maman de 27 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai une petite question. Voilà, je suis enceinte et on m'a parlé du bouchon muqueux qu'on peut perdre en fin de grossesse. Alors est-ce qu'il faut aller à la maternité comme lorsqu'on perd les os? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors Jimmy, d'abord expliquez-nous précisément de quoi il s'agit quand on parle de bouchon muqueux.
Alors déjà, une femme, avant d'être enceinte, elle sécrète ce qu'on appelle de la glaire cervicale. Cette glaire cervicale, c'est une substance blanche ou jaunâtre, gélatineuse, qui permet aux spermatozoïdes de mieux passer pour améliorer la fécondation. Et ce bouchon, il est expulsé chaque mois au moment des règles. Et lorsque la femme tombe enceinte, ce bouchon, cette glaire, devient plus coagulée, plus épaisse et forme un bouchon au niveau du col de l'utérus, permettant de créer une barrière physique entre le bébé et le milieu extérieur. Donc ce qui permet de protéger le bébé d'éventuelles bactéries.
D'accord. Et donc, ce bouchon muqueux, à un moment donné, les femmes enceintes, bah, elles le perdent, enfin pas toujours, mais parfois.
Oui, c'est pas systématique. Elles peuvent le perdre au moment de l'accouchement sans s'en rendre compte. Et puis parfois, elles vont expulser ce bouchon avant l'accouchement. Ça peut être quelques heures, quelques jours ou quelques semaines avant, sans pour autant qu'il faille s'inquiéter.
D'accord. Et pour celles qui le perdent avant l'accouchement, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est une urgence?
Non, absolument pas. Et souvent, elles sont un peu paniquées. Elles se demandent pourquoi est-ce que j'ai perdu ce bouchon? Elles peuvent le confondre avec la perte de la, enfin, la rupture de la poche des os.
Ça n'a rien
mais
à voir.
Si vous n'avez pas perdu les os, vous n'avez pas de contractions régulières, répétées et rapprochées, eh ben, il n'y a pas lieu de foncer aux urgences à la maternité. En revanche, vous pouvez consulter votre sage-femme ou le gynécologue pour l'informer. Et tout à l'heure, on a dit que ce bouchon permettait de protéger le bébé du milieu extérieur. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu ce bouchon qu'il faut s'inquiéter, parce que vous avez encore la poche des os qui, elle, protège votre enfant.
C'est ça vraiment la donc meilleure ça, des protections en fait, pour le bébé. Hein,
en revanche, si vous avez une rupture de la poche des os, il est évident qu'il faut aller, il faut aller à l'hôpital. Alors, il n'y a pas d'urgence à la minute, même si vous n'avez pas de contraction, mais c'est la poche des os qui conditionne une éventuelle infection, et surtout si vous faites de la température à ce moment-là. Bref, perdre le bouchon muqueux, c'est pas du tout grave et c'est plutôt naturel.
D'accord, mais la poche des os, on court à l'hôpital, exactement, on court à la maternité assez vite, même si on a quand même, c'est pas à la minute. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Julie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la bronchite. Il y en a pas mal en ce moment. Et puis, on accueillera aussi nos deux invités, la psychothérapeute Isabelle Filioza et la sexothérapeute Margot Fried Filioza. Elles sont mère et fille, en plus un duo parfait pour parler des relations parfois difficiles entre parents et ados. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes nos invités, Isabelle Filioza et Margot Fried Filioza, pour parler des relations parents-ados, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, je crois que c'est la saison des virus, ça c'est clair, elle est déclarée, elle est là, ça tousse, ça mouche, ça crache. Vous allez donc nous parler aujourd'hui de la bronchite, puisque vous êtes un puits de science. Hein. La bronchite, c'est quoi d'abord?
Alors la bronchite, c'est l'inflammation aiguë des bronches et des bronchioles. Ce sont les voies de conduction, c'est les tuyaux qui mènent ensuite aux alvéoles, au parenchyme pulmonaire, qui lui n'est pas atteint. Lorsque le parenchyme pulmonaire est atteint, là où se font les échanges gazeux, c'est la pneumopathie. C'est très fréquent, c'est 10 millions de cas par an en France.
La bronchite, hein,
exactement,
seulement.
Exactement, la bronchite, oui. C'est plutôt en période d'hiver, donc là on commence à rentrer dedans. Et c'est viral dans 90% des cas. Donc si c'est viral, ça veut dire qu'on ne prend pas d'antibiotiques. Une multitude de virus est responsable. On a le virus de la bronchiolite qui peut donner des bronchites chez l'adulte.
Le virus VRS.
Exactement.
Moi aussi, je vous avais vu, je suis un puits de science.
Oui, vous êtes aussi un puits de science. Le virus influenza, parainfluenza.
La grippe, vous avez vu, je suis trop fort.
Ah oui, le latin première langue, c'était quelque chose.
Non, je suis bonne en virus,
oui,
c'est tout.
Exactement. Et donc voilà, c'est la saison, mais ça reste viral dans 90% des cas.
Très bien. Et donc je suppose que c'est assez facile à diagnostiquer pour vous, la bronchite?
Oui, c'est très facile. Et même pour les patients, souvent, ils reconnaissent leurs symptômes puisque ça commence dans un contexte d'épidémie, où tout le monde tousse, avec une toux qui commence initialement à être sèche, puis grasse, avec une douleur rétrosternale, c'est-à-dire derrière la poitrine, on sent que ça brûle, on crache, parfois jaune, parfois vert, parfois blanc, et puis on a de la température, ou pas, certains vont avoir un petit 38-38,5, et puis d'autres un peu plus de température, on a souvent le nez qui coule, mal à la gorge, bref, on n'est pas très bien.
Non, c'est clair. Et ça se traite comment? Alors, est-ce qu'il faut prendre ces sirops anti-toussifs, là?
Eh ben non, jamais de sirop contre la toux. Un, ça sert à rien, parce que vous essayez, vous verrez que ça marche pas. Et deux, ça peut être contre-productif. Il faut ne pas oublier que lorsque vous toussez, c'est un mécanisme de défense. Vous cherchez à évacuer les sécrétions et à les mobiliser pour parfois les expectorer ou chez les enfants, les avaler. Donc, lutter contre ce phénomène naturel peut vous exposer à des surinfections. En règle générale, il n'y a pas vraiment de vrai traitement de la bronchite. Déjà, on prend pas d'antibiotiques parce qu'on a dit que c'était
viral dans 90% des cas.
On prend du paracétamol si on a peu de température, on essaie de s'hydrater, de se reposer quand on peut, et puis d'attendre que ça passe. Les symptômes, en règle générale, s'améliorent dans les 3-4 jours, mais attention, la toux persiste durant une dizaine de jours,
donc
il
ne
faut pas être trop pressé. Vous allez avoir des symptômes pendant un bon moment, sans pour autant qu'il y ait de surinfection.
Et donc, vous l'avez dit, pas d'antibiotiques, même quand on crache vert, c'est dégoûtant, mais on le dit.
Oui, c'est crade, mais c'est souvent, les patients nous disent « Oh là là, je crache vert, il y a la surinfection ». Non, c'est pas parce que c'est vert que vous crachez que c'est surinfecté. En revanche, prudence chez des personnes à risque. Si vous êtes asthmatique, bah évidemment que vous avez une plus forte probabilité de surinfection. Si vous avez ce qu'on appelle la bronchite chronique, on en a parlé, les personnes âgées aussi, ça peut décompenser des pathologies sous-jacentes, mais en règle générale, un peu de miel, du thé, du citron, de l'eau chaude et du paracétamol.
Les bons conseils culinaires du docteur Jimmy Mohamed. Merci Jimmy pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons nos invités pour le dossier du jour. C'est Isabelle Filioza, psychothérapeute, et Margot Fried Filioza, sexothérapeute. Leur dernier livre, c'est Sexpérience chez Robert Laffont.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Isabelle, bonjour Margot.
Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui avec vous, on va parler, on l'a dit, des relations parfois difficiles entre les parents et les ados. L'adolescence, c'est une période qui est un peu sensible, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Mais quand même, pour commencer, moi je suis curieuse, vous êtes mère et fille. Est-ce que vous, l'adolescence a été un long fleuve tranquille du coup?
Non, et heureusement, parce que si c'était un long fleuve tranquille, c'est probablement qu'une des deux avait un problème ou fermait les yeux. Mais l'adolescence, c'est forcément un moment, c'est un moment de transformation. C'est un moment où on passe d'enfant à adulte. Et donc, obligatoirement, ça va avec des transformations du corps, ça va avec des transformations émotionnelles, ça va avec des transformations dans la tête et forcément des transformations dans les relations.
Votre avis quand même à vous, Margot, la fille, du coup, maman dit ça, vous avez trouvé cette période d'été, ça doit être plus facile quand on a une maman qui est spécialiste de parentalité positive.
Ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu disputé, mais pas beaucoup. Mais quand je vois les copains, copines, parfois, c'est difficile autour de moi.
Dimi ?
Et vous parliez justement du bouleversement hormonal que l'adolescent peut subir, ce qui explique que parfois, il a un comportement un peu, on va dire, inadapté, qu'il n'arrive pas à réguler ses émotions.
Tout à fait. En fait, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a l'intensité des émotions, il y a un afflux de testostérone, alors beaucoup plus chez le garçon que chez la fille, mais il y en a aussi chez la fille. Et donc, cette testostérone va se fixer sur l'amygdale et du coup, va donner une espèce de hyper-réactivité. Et puis après, il y a les estrogènes chez la fille qui va lui donner aussi des bouffées d'énervement, envie de claquer les portes. Il y a en même temps que ce bouleversement hormonal, une transformation du cerveau. Dans le cerveau, en fait, il y avait des neurones qui grandissaient. Il y a toutes sortes de petites routes qui se créaient depuis la naissance. Hop, c'est une arborescence incroyable, des milliers de petites routes. Mais au moment de l'adolescence, il se passe quelque chose qui fait que finalement, le cerveau se dit « mais ça fait beaucoup de petites routes et c'est trop lent, ça ne va pas, machin. On va faire des travaux pour faire des autoroutes ». Et du coup, il y a ce qu'on appelle la myélinisation, c'est-à-dire les routes qui sont les plus souvent utilisées vont être entourées d'une gaine de myéline, c'est des graisses, qui va faciliter la conduction. Mais donc ça se fait depuis l'arrière de la tête jusqu'au devant. Sauf que devant, c'est la zone qui prend les décisions, c'est la zone qui réfléchit, c'est la zone qui peut calmer, tempérer les émotions. Donc il y a, au moment de l'adolescence, les circuits émotionnels qui sont hyperactivés, d'une part hormonale, mais aussi du fait de la transformation du cerveau, et les zones qui sont chargées de réguler les émotions qui ne sont pas très opérationnelles. Donc l'ado a absolument besoin d'un adulte à côté qui soit bien enraciné et qui sache le regarder, avoir ses extras émotionnels dans tous les sens et les portes qui claquent et les cris, sans se mettre à crier lui aussi. C'est-à-dire que nous avons un cerveau normalement qui est terminé, et donc nous pouvons réguler nos émotions et aider nos enfants à réguler leurs émotions.
Alors Isabelle Filioza, Margot Fried Filioza, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à vous expliquer ce qui se passe dans la tête et dans le corps des ados, ce qui peut faire que parfois, avec les parents, eh bien, on n'arrive plus à les comprendre. Vous verrez par exemple qu'à l'adolescence, la zone préfrontale du cerveau est en chantier, on vient d'en parler. Il y a donc un déficit d'empathie, ça peut aider à comprendre pourquoi ils n'entendent pas votre épuisement. Alors comment on rétablit le lien, comment on les encadre, on les guide dans la bienveillance? On vous donnera plein de conseils. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors à mes côtés, le docteur Dimi Mohamed et nos deux invités, spécialistes de la parentalité positive et de la sexualité des ados, ce sont Isabelle Filioza et Margot Fried Filioza. Alors Isabelle, d'abord, vous êtes une maman, vous aussi vous avez eu des ados, notamment. Moi, j'ai lu que vous aviez une histoire avec votre fils, moi qui m'a fait rigoler, puis j'avais envie que vous me la racontiez. Votre fils, il avait tendance, quand il était adolescent, à pas jamais éteindre la lumière de l'entrée. Et donc, j'imagine que vous êtes énervé quelques fois, puis un jour vous avez décidé de changer de moyen de communication, vous êtes passé à quelque chose de beaucoup plus neutre, plus simple. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, le plus souvent, je demandais à mon fils d'aller, s'il te plaît Adrien, veux-tu bien aller éteindre la lumière? Et ça ne marchait pas. Il me disait toujours oui, parce que j'ai un garçon adorable, mais il continuait à jouer à World of Warcraft sur son ordinateur, et donc j'avais zéro impact. Et donc, je me suis dit, mais en fait, si je lui donne un ordre, le problème, c'est qu'il entend d'un côté, mais ça sort de l'autre. Il est gentil, il me dit oui, mais comme il a compris la phrase, en fait, en réalité, sa réponse, c'est, ça veut dire, oui, maman, j'ai compris. Et peut-être un jour j'irai. Mais comme il y a le cerveau préfrontal qui est en travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, l'enfant ne se met pas dans la dynamique de le faire. Donc, à ce moment-là, eh bien, une autre façon de faire, c'est mobiliser le cerveau préfrontal. Du coup, je passe dans le couloir comme ça, très discrètement, et juste de manière anodine, je dis « lumière », c'est-à-dire un seul mot. Avec un seul mot, l'enfant entend « lumière », bon, ça ne fait pas de sens. Donc, il est obligé de passer le mot au cerveau préfrontal, ça l'oblige à réfléchir à la question, et du coup, il se met en dynamique. « Ah oui, j'ai laissé la lumière allumée, hop, et j'y vais. » Et du coup, il est descendu. Alors, je n'y croyais pas du tout, la technique, je l'avais lue dans un bouquin américain.
Et ça a marché.
Ça a marché. Et alors, je l'ai refait, mais je n'y croyais pas. Je l'ai refait, ça marche à tous les coups. Et il n'y a même pas
d'habitude. Donc, si c'est la lunette des toilettes qui ne baisse jamais, c'est juste lunette des toilettes. Et puis
voilà.
Et je me rends compte que moi aussi, je suis encore un adolescent. Alors, parce que je pense que moi, ça marchera aussi. Alors, on a vu sur les hommes, ça peut marcher. Hein. Lunette des toilettes, poubelle, vaisselle.
Oui, et l'avantage, c'est que ce n'est pas culpabilisant. Ce n'est pas une accusation. Ouais. Ça n'est pas un ordre. Donc, ça ne mobilise pas la rébellion. Et ça, c'est essentiel quand on est avec un ado ou avec un homme, ou avec n'importe quel humain, finalement.
Bah c'est vrai. Jimmy ?
Et d'ailleurs, c'est souvent envers la personne d'attachement principale que les crises d'ado à la maison sont les plus violentes.
Pourquoi ?
Depuis, en fait, nous sommes une espèce sociale. Nous avons absolument besoin de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui prend soin de nous. Et donc, au moment de la naissance, et juste dans les 9 premiers mois de la vie, on tisse un lien spécifique avec une personne qu'on appelle la figure principale d'attachement. C'est la personne avec laquelle on se sent le plus en sécurité. Et donc, même à l'adolescence, même si les attachements se réorganisent à l'adolescence, il reste que la personne qui s'est occupée le plus de l'enfant dans les 9 premiers mois de sa vie, donc ça peut être le papa ou la maman ou une autre personne, mais cette personne-là sera identifiée comme la figure d'attachement. Ça veut dire la personne vers qui je me tourne en cas de souci pour ma sécurité. Donc ensuite, quand j'ai trop de charge de stress à l'intérieur de moi, je ne peux pas me permettre de libérer mon stress sur n'importe qui. Je ne peux me permettre de libérer mon stress que envers une personne dont je sais avec certitude qu'elle ne va pas me juger, qu'elle va continuer à m'aimer, qu'elle ne va pas me lâcher.
Ça rassure un peu les parents qui en prennent plein la figure, parfois toujours eux, parce que c'est vrai que parfois c'est la maman quand elle est plus là, parfois c'est pas parce qu'il nous aime moins, au contraire, c'est parce qu'il presque nous aime plus.
Exactement, plus. C'est parce qu'il a plus confiance, il se sent plus en sécurité. Et en fait, c'est biologique, ça n'est même pas une intention. L'enfant ne se dit pas « je me sens plus en sécurité ». Non, c'est biologique. Il voit son père, il reste sous tension. Il a ce stress à l'intérieur, il voit sa mère, il y a une petite dose d'ocytocine parce que rien que le fait de voir la figure d'attachement, on se sent un peu plus en sécurité. Donc ça libère les tensions, ça permet au stress de sortir. Donc vraiment, attention, ça n'est pas une intention de la part de l'enfant ou de l'adolescent de lâcher tout le stress sur la personne qu'il préfère. Non, et ce n'est pas forcément qu'il la préfère, il aime autant l'autre, mais c'est juste qu'il se sent en sécurité.
Isabelle Margot, on va poursuivre cette discussion après une courte pause. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler d'un autre sujet qui inquiète pas mal les parents d'adolescents, la sexualité. Comment les accompagner, les informer des risques aussi, sans être trop intrusif non plus. On va vous donner quelques clés pour traverser cette période d'apprentissage du désir, de l'envie naissante chez eux aussi et de l'amour. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et nos deux invités, ce sont Isabelle Filioza et Margot Fried Filioza. Alors à présent, on va passer à un sujet d'inquiétude des parents, les premiers pas de nos ados dans la sexualité. Vous Margot, vous allez dans les collèges justement intervenir sur ce sujet. D'abord, quelles sont les questions qui posent le plus les ados? C'est quoi qu'ils connaissent le moins bien finalement?
C'est surtout des questions par rapport à ce qu'il faut faire en fait.
Parce
qu'aujourd'hui, ouais, vraiment technique. Est-ce qu'il faut aussi, est-ce que c'est comme ça? Mais aussi beaucoup de est-ce que je suis normale? Donc d'un côté, il y a cette norme de « est-ce qu'il faut absolument ?» Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les adolescents, des jeunes en fait, voient des images pornographiques. La première exposition, c'est à peu près 11 ans, ça dépend. Mais du coup, ils ont leur mental imprégné de toutes ces images qui sont parfois violentes, dégradantes, intenses.
Et vous parlez de quoi? Des questions de taille, de « est-ce que ça fait mal ?»
Ouais,
c'est quoi les
c'est
questions
ça.
Ouais.
C'est « est-ce que ça fait mal ? Est-ce que je suis obligée de faire ça ? Est-ce que... »
Mais il y a beaucoup de méconnaissances.
Il y a beaucoup de méconnaissances et il y a beaucoup de peur. En fait, en face de moi, j'ai vraiment des adolescents, des enfants en fait, qui sont inquiets. Je me souviens d'une question d'un adolescent de 14 ans, un garçon, qui m'écrit, qui me pose par écrit... Je suis amoureux, mais j'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire si on fait l'amour.
Oh là là, oui.
Et c'est même pas, je me sens pas prêt. C'est j'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire parce qu'il a vu plein de trucs.
Eh ouais, alors qu'il n'y a pas du tout besoin de faire tout ça, justement.
Et c'est très souvent, sur le même papier, où il y a, j'ai la question, c'est quoi être amoureux? Comment je sais si je suis amoureux? J'ai aussi, c'est quoi? Et là, ils me décrivent une pratique, le nom d'une pratique tirée par les cheveux qu'ils ont vue dans le porno.
Donc, d'accord. Jimmy?
Et parfois, c'est compliqué d'aborder la sexualité avec son enfant. Et à partir de quel âge on peut ou on doit le faire? Parce que pouvoir, c'est pas pareil que devoir.
Isabelle, peut-être?
Ce qui est important, c'est d'être attentif et répondre aux questions dès qu'il les pose.
Sans mentir, c'est-à-dire qu'on répond
sans
franchement.
Sans mentir, tout à fait, d'accord. Bien sûr. Ben, il n'y a aucune raison de mentir. Et en fait, plus on va essayer de déguiser, plus on va mettre des noms bizarres sur... On peut nommer la vulve, on peut nommer le pénis. Quand on commence à mettre des petits noms et compagnie, on sous-entend qu'il y a un truc étrange
la
qui
rose,
se passe.
La rose, la fleur, on ne parle pas comme ça, on dit ce que c'est. Ouais.
Voilà, donc on dit ce que c'est. Avec, alors, ce qui est important, c'est se mettre soi-même le plus en confiance possible, connaître un petit peu plus de choses pour pouvoir expliquer... Mais on ne va pas expliquer au-delà de ce que l'enfant demande. Et c'est important de réaliser que l'enfant demande toutes sortes de choses. Mais en fait, le plus souvent, si on lui pose la question « Comment tu imagines ça ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ?» Au début, on va lui faire parler de sa représentation à lui. Et ensuite, on va juste combler les trous et lui rectifier ce qui n'est pas juste.
Ce n'est pas si compliqué que ça, en fait.
Non, ce n'est pas si compliqué. Et ce n'est pas la peine de partir dans des grandes explications qui dépassent totalement sa capacité de compréhension.
D'accord. On aborde ça de la même manière, Margot, avec un garçon et une fille. Ça, c'est oui, il n'y a pas de différence.
Oui, complètement. Et il ne devrait pas y en avoir, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous des interrogations. Les filles aussi voient des images. Et même si le corps est différent, il se passe des choses différentes, mais on a tous les mêmes stress.
Jimmy ?
Est-ce que c'est au papa de parler, par exemple, à son garçon de sexualité et à la maman de parler à sa fille de sexualité où on peut tout mélanger et qu'il n'y a pas forcément de règles ?
Je pense que ce qui est important, c'est que la personne qui se sent le plus confortable avec puisse en parler. Le plus souvent, c'est vrai, ça paraît logique que ce soit le papa pour le garçon et la maman pour la fille, parce qu'on a un corps similaire. En même temps, c'est vraiment ce qui est important, c'est se sentir confortable.
Mais par contre, ne pas se sentir confortable, ça ne veut pas dire que c'est OK de ne pas en parler. Parce que les adolescents aujourd'hui sont démunis, sont stressés. Et vraiment, sont malheureux en fait de pas avoir suffisamment d'espace, d'endroit pour avoir des vraies réponses. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et souvent, les parents sont en effet mal à l'aise. Moi, j'ai très très souvent des enfants, des adolescents qui me disent « Non mais mes parents, ils s'en fichent, ils veulent pas en parler, ça les met mal à l'aise. Une fois, j'ai posé une question, je me suis fait rembarrer. » Ou des voilà, enfin, il y a de tout. Et puis il y a des parents qui n'osent pas. Mais même si on n'ose pas, on a besoin de mesurer. Qu'on a besoin de leur donner des ressources. Et c'est pour ça qu'on a écrit ensemble ce livre, cette expérience, parce que c'est compliqué d'en parler. Par contre, c'est pas forcément compliqué d'acheter un livre, de le laisser traîner, de donner des ressources, parce qu'on peut pas se permettre de les laisser seuls face à ce qu'ils voient aujourd'hui.
Isabelle Filioza, est-ce qu'on doit évoquer ça? Alors, quand on commence à aborder peut-être la première fois, etc., des choses un peu plus intimes, est-ce qu'on doit aborder sa propre expérience avec son enfant?
Ça, jamais. C'est là, on rentre dans l'intimité. La sexualité, c'est quelque chose d'intime et donc c'est quelque chose qui reste secret. On donne des informations génériques, on donne des informations sur le corps, on va aider l'enfant, aider l'adolescent à savoir dire non, à réfléchir, à pouvoir prendre tout son pouvoir. On va l'aider à développer ses compétences émotionnelles, ses compétences sociales, ce qu'il sache un petit peu mieux réagir pour lui. On va lui donner des informations. Mais il vaut mieux ne pas parler de sa propre sexualité. On est nous-mêmes mal à l'aise et puis ça risque de mettre mal à l'aise notre ado sans lui apporter grand-chose.
Jimmy ?
Vous l'avez dit, tôt ou tard, un enfant sera exposé à la pornographie et en ce moment, c'est plutôt tôt que tard. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement aborder franchement le sujet avec eux et ne pas diaboliser ? Alors, on ne va pas mater un porno en famille, mais peut-être d'avoir moins cette attitude opposante face à la pornographie en donnant quelques pistes ?
Complètement. De toute manière, on ne peut pas empêcher les ados de voir de la pornographie. Et souvent, ce n'est même pas eux qu'ils cherchent. Mais on peut même en regardant un film d'action, un film à la télé, il y a toujours à un moment ou un autre une scène où il y en a des gens, c'est ça, un peu érotique, un baiser ou plus. Et on peut peut-être utiliser pour parler, est-ce que tu as déjà vu des choses comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, il y a d'autres films qui sont faux, qui sont comme ça. J'utilise souvent la métaphore du film d'action, justement. Ou dans un film d'action, s'il y a le personnage principal qui saute du haut d'un immeuble et qui atterrit sur ses pieds sans aucune égratignure, Il n'y a personne qui se dit « Ah bah ça, ça a l'air cool, je vais faire pareil, ça va impressionner tout le monde. » On ne se dit pas ça. Ou alors on a un problème, mais on ne se dit pas ça. Pourtant, dans la pornographie, on n'a pas l'impression que ce n'est pas la réalité. Du coup, bah, on se dit « Ah bah ça, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et je pense que c'est surtout cette notion-là qu'on a besoin d'aborder, qui est primordiale à aborder avec les enfants et les adolescents, c'est que ce qu'on voit à l'image, ce n'est pas la réalité. Que ça soit un baiser, que ça soit plus, que ça soit une cascade. Comment est-ce que c'est fait ? C'est ça qui donne de la liberté, quand on comprend. C'est pas juste dire « Ah, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça ». On a juste besoin de remettre un peu le cadre.
Jimmy ?
Donc, il faut les préparer à la sexualité, et puis parfois, est-ce que ça peut amener de mauvais avec des dérives ? Mais est-ce qu'il faut aussi les préparer à l'amour, tout simplement, avoir des chagrins d'amour, des peines de cœur ?
On n'a pas envie de les voir souffrir, nos enfants.
On n'a pas envie, mais bon, ça, c'est inévitable. On ne peut pas préparer quelqu'un au chagrin d'amour. Ce qui est intéressant, par contre, pour un parent à savoir, c'est que le premier chagrin d'amour, à l'âge de l'adolescence, absolument dévastateur,
ouais, moi je m'en rappelle
très,
encore.
Très, très douloureux. Et en IRM, on sait ce qui se passe un peu mieux dans le cerveau. On peut voir que c'est vraiment la zone de la douleur, comme si c'était une douleur physique.
À ce point-là.
Et donc, c'est naturel qu'il pleure, qu'on va accompagner la douleur.
Que ce soit la fin du monde pour lui.
Et ouais. Voilà. Et donc, juste, on accompagne ça, on écoute, on lui dit pas « Mais non, maintenant, t'inquiète pas, t'en verras d'autres et compagnie. » Ça sert à rien. On va juste accueillir, être là, lui apporter un jus d'orange, être aux petits soins. Et ça va passer, mais il a besoin de traverser cette douleur. Par contre, il a besoin de la traverser avec nous présents. Il n'y a pas de raison de le laisser s'enfermer dans sa chambre pour souffrir tout seul.
Merci beaucoup Isabelle Filioza, merci Margot Fried Filioza d'être venue sur notre plateau. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, c'est une bonne idée de cadeau, je trouve d'ailleurs, pour son ado, le livre dont vous êtes co-autrice, Sexpérience, publié chez Robert Laffont. Merci à toutes les deux.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on reste encore un peu dans la sexualité, du coup, puisqu'on va s'intéresser à un moyen de contraception pas toujours bien connu, les spermicides. Comment ça fonctionne ? Est-ce vraiment efficace ? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un moyen de contraception pas très connu, les spermicides. Alors de quoi s'agit-il ? Comment ça s'utilise ? Et est-ce vraiment efficace ? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
C'est quoi ? C'est un truc qui tue les spermatozoïdes ?
Si je fais le rapprochement avec le latin, donc spermicide, pour moi c'est tuer les spermatozoïdes.
C'est ce qui sort avant les spermatozoïdes.
C'est ce qui est oui, contenu dans le sperme tout court.
Donc c'est un contraceptif chez les hommes. Ça permet de donner un rôle à l'homme. C'est pas que la femme qui supporte ça, c'est bien. En 2019, il serait temps.
Les personnes qui ont recours, c'est souvent des hommes, je pense, qui veulent pas avoir d'enfants, qui veulent pas que leur partenaire tombe enceinte, qui veulent éviter tout risque.
Ça peut très bien arriver du coup chez les jeunes hommes ou même les plus âgés qui veulent pas d'enfants, tout simplement.
Ça peut être une sorte de pilule qu'on peut avaler.
Voilà, tant qu'on prend du plaisir, tout va bien.
Alors, Jimmy, on va rappeler ce que sont les spermicides. Alors, il y avait quelques pistes. Bon, il y en a un qui dit, une qui a dit, c'est un moyen chez l'homme. Non, ça se met pas sur le pénis, c'est pour la femme. Mais Jimmy, est-ce que c'est un moyen de contraception qui est vraiment efficace ? Ça tue les spermatozoïdes ou ça les rend immobiles, c'est ça ?
Alors, c'est pas très très efficace. À titre de comparaison, lorsque vous mettez par exemple un stérilet ou un implant, on est proche de 100% d'efficacité. Lorsqu'on parle des spermicides, on est entre 18 et 30% d'échecs de contraception.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc, c'est pas terrible. Et leur efficacité dépend de leur utilisation. On en a deux types. On a ceux qu'on met sous forme de crème et ceux qu'on met sous forme d'ovule. Alors ceux sous forme d'ovule, ils sont efficaces dans les 60 minutes et pendant 60 minutes, et ceux sous crème pendant 8 heures. Donc c'est pas terrible, terrible. Et surtout, c'est que l'efficacité dépend aussi d'autres choses. C'est que si vous vous lavez dans les 6 à 8 heures
après le rapport,
et ben les spermicides n'est plus efficace. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Et les ovules, il faut les mettre au fond du vagin. Ça prend une dizaine de minutes, donc c'est pas tout à fait efficace. Et en ce qui concerne la crème, elle peut être utilisée juste avant le moment du rapport. Et donc là, elles sont efficaces immédiatement.
D'accord. Bon, en termes d'efficacité, moi ça me tente moyen quand même pour un contraceptif. Mais ça peut être quoi l'avantage de ce dernier ?
Alors le spermicide, c'est plutôt discret. Le partenaire peut l'utiliser en complément du préservatif. Et donc ça peut augmenter l'utilisation de l'effet contraceptif. Ça s'achète sans ordonnance.
Bon,
et puis, ça peut aussi servir de lubrifiant vaginal. Donc, normalement, ce n'est pas irritant pour les parois du vagin, sauf si vraiment on l'utilise de façon très intense. plusieurs fois par jour, là, évidemment.
Oui, bon, voilà. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, effectivement. On peut l'utiliser seul, mais l'idéal, c'est donc de l'utiliser en association, par exemple, avec une méthode barrière, comme le préservatif. Juste rapidement, ça coûte cher, donc ce n'est pas remboursé si c'est sans ordonnance.
Le prix, c'est aussi un autre frein. C'est assez coûteux. Ça coûte entre 7 à 20 euros pour plusieurs doses non remboursées par l'assurance maladie, alors que les autres moyens de contraception sont remboursés par l'assurance maladie. Et il ne faut pas oublier de dire que ça ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Donc, vous pouvez utiliser ça, mais il faut l'utiliser en complément d'un préservatif, qu'il soit masculin ou féminin.
Et juste pour finir, est-ce qu'il y a des contre-indications, des conditions pour lesquelles il ne faudrait pas les utiliser, quoi ?
Alors, on évite de les utiliser lorsque vous êtes en période d'infection sexuellement transmissible. Si vous avez une mycose, une infection urinaire, ce n'est pas le moment, ou une irritation du vagin. Mais bon, d'une autre façon, quand vous avez une mycose, les rapports sexuels ne sont pas forcément conseillés pour autant. Donc, on n'utilise pas non plus chez les femmes qui auraient des médicaments par voie vaginale. Donc, si vous avez une mycose que vous traitez avec ovule, ce n'est pas le moment d'en mettre. Donc bon, ce n'est pas non plus fou. Mais bon, ça peut être un moyen complémentaire de lutter contre, d'avoir un moyen de contraception.
D'accord, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Alors moi je suis quand même pas très convaincue par les spermicides comme la méthode principale de contraception, mais bon, de toute façon on rappellera jamais assez, la meilleure contraception c'est celle que l'on choisit.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler d'échangisme, comment réagir quand on ne partage pas vraiment l'envie de tenter l'expérience avec son conjoint. Elle nous dira tout, restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on parle d'échangisme avec cette question de Marie. Je suis mariée depuis 9 ans, mais voilà, depuis quelques mois, mon mari veut faire de l'échangisme. J'en ai pas vraiment envie, mais il insiste, j'ai l'impression de ne pas lui suffire. J'ai peur qu'il me trompe si je continue de refuser. Que dois-je faire ? Alors Catherine, avant de répondre à Marie, c'est quoi l'échangisme ?
Alors, c'est
bon,
tout
ça. On comprend un peu, mais quand même préciser.
Alors, ce n'est pas retourner au supermarché pour échanger un baril de lessive contre un autre baril de lessive.
C'est pas ça.
Mais ça pourrait s'apparenter à cela. En tout cas, c'est aller dans un lieu pour pouvoir, lieu ou d'ailleurs chez soi, où deux couples, deux, trois, enfin bon, peu importe, vont échanger leur partenaire. Le temps d'une soirée, le temps d'une partie fine.
Pourquoi le mari de Marie n'insiste comme ça ? Parce que leur sexualité de couple ne lui suffit plus, sûrement ? C'est comme ça que ça démarre en général ?
Non, en fait, c'est toujours très compliqué parce que notre société est tellement à nous proposer une vie sexuelle extrêmement mouvementée sous prétexte que ce ne serait que cela, une vie érotique et une vie heureuse, avec multiples couleurs, inventive, créative, etc. Alors qu'en réalité, c'est parce que ça manque de création qu'on va chercher dans les lieux communs dont l'échangisme fait partie. Ceci étant, on peut tout à fait comprendre que ce soit très excitant l'idée d'une part, de découvrir d'autres partenaires, sans pour autant perdre sa partenaire ou son partenaire. Et puis, on peut aussi comprendre qu'il y a aussi quelque chose d'excitant à l'idée de sentir que son ou sa partenaire pourrait nous être ravi par un autre ou une autre, et de le voir ou la voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Et évidemment qu'il y a quelque chose d'un peu masochiste là-dedans, il y a quelque chose d'un peu cruel là-dedans, mais les fantasmes sexuels sont aussi un peu masochistes et cruels.
Jimmy ?
Est-ce que c'est pas juste une façon de pouvoir tromper, mais avec l'aval de l'autre ? Et Marie, lorsqu'elle refuse, est-ce qu'elle va pas tout simplement avoir son mari qui va aller voir ailleurs et la tromper ?
C'est ce qu'elle craint, et c'est justement cette crainte qui fait que beaucoup de femmes, principalement des femmes d'ailleurs, parce que
finissent par céder,
et puis en se disant bon, je suis peut-être coincée, je suis peut-être un peu rigide, et après tout pourquoi pas, et je suis en sécurité, je suis avec lui. Mais le problème, c'est que si ça ne part pas vraiment si ça ne vient pas rencontrer une certaine excitation, on risque de s'y faire du mal, puisqu'on risque de se retrouver comme offerte à un autre, donc ce qui renvoie à une idée de prostitution, ou on risque de se retrouver comparé à une autre, ou voire assister à une infidélité officialisée par soi dont on ne pourrait plus se plaindre, puisqu'en effet, on l'a acceptée.
Mais si c'est elle qui fixe les règles éventuellement, Marie, parce que bon, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'avoir envie de se lancer, mais si elle dit il faut que ça reste vraiment uniquement sexuel, parce qu'on a peur, elle peut avoir peur aussi éventuellement qu'il tombe amoureux d'une autre femme qu'il rencontre lors de ses parties d'échangisme. Si elle fixe des règles très précises, peut-être que c'est moins dangereux, non ? Je ne sais pas.
De toute façon, ça nécessite des règles. C'est une règle du jeu qui s'impose automatiquement et dans les lieux et dans les autres couples. C'est très codifié. On ne fait pas tout et n'importe quoi, que ce soit dans des lieux prévus comme cela ou des choses que l'on organise entre un couple et son couple. Mais pour autant, les peurs, les inquiétudes, les doutes quant à soi perdurent. Et c'est toute la difficulté. Donc c'est un jeu auquel l'autre peut nous initier. Mais pour autant, il faut bien s'assurer que si on a la solidité de pouvoir dire stop, d'y revenir et de pouvoir poser et être entendu dans ce stop, le cas échéant.
Et si elle dit oui, elle ne risque pas d'être en compétition avec les autres femmes ou filles qu'il pourrait rencontrer ?
Mais c'est de fait, la compétition, elle existe dans la vie, de toute façon.
Après, c'est pas un sport non plus, la compétition, enfin, je sais pas.
Mais l'idée de compétition et de rivalité existe dans la vie en général, et là, évidemment, elle est à l'ordre du jour, et elle est censée être la source d'excitation. Donc, c'est peut-être la source d'excitation, c'est-à-dire que du coup, elle se permet des trucs incroyables, puisqu'elle elle veut gagner sur l'autre, mais elle peut au contraire se sentir complètement dévalorisée et abîmée par cette rivalité. Quand bien même
si elle ne sent pas, le mieux c'est qu'elle n'y aille pas, on est d'accord.
Voilà, je crois que de toute façon, dans la sexualité, on ne peut pas savoir à l'avance ce dont on sera capable, mais on peut savoir à l'avance ce qui nous fait très peur ou nous fait mal, et auquel cas on s'en protège bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, aujourd'hui vous restez avec nous, d'autant plus qu'on reçoit... On peut le dire, on peut l'avouer aux auditeurs d'Europe 1, celui qui a été un grand inspirateur pour vous, du moins une partie de votre vie, une vie assez privée, une vie même intime, on peut le dire, c'est Garou, le fantasme de votre adolescence qui nous accompagne cet après-midi dans l'équipe sauvage, 16h-18h. Passez nous faire un coucou.
Oh Mathieu, mais pourquoi vous dévoilez mes secrets d'adolescente ? Bon, merci, j'arrive tout de suite, bien sûr, gardez-moi une place. Bonne émission, restez sur Europe 1.